Le journal, Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour. Il y avait des torts des deux côtés à Charlottesville. Nouvelle déclaration choc de Donald Trump. Après le rassemblement des suprémacistes blancs ce week-end en Virginie et la mort d'une manifestante, le président des États-Unis renvoie à nouveau dos à dos extrémistes de droite et de gauche. En France, bacheliers cherchent fac pour la rentrée. Ils sont encore plusieurs milliers à ne pas avoir d'affectation. Vous entendrez le témoignage de Diane, une jeune bachelière en colère. Les ratés du système admission post-bac, on en parle avec votre invité Pierre.
Oui, un président d'université, Michel Deneken, président de l'université de Strasbourg depuis décembre 2016. Vous pourrez l'interroger dans Interactive, témoigner peut-être sur vos difficultés lors des inscriptions à l'université en appelant le 01 45 24 7000. Le standard est à votre disposition dès maintenant.
Après la plainte d'Emmanuel Macron contre un photographe, on se demandera si le président de la République est un justiciable comme les autres. En concours photo pour montrer l'ordinaire des conditions de travail des policiers. C'est l'idée d'une association qui a déjà reçu une centaine de clichés. Et puis en fin de journal, reportage en immersion avec les fans d'Elvis Presley à Memphis, en communion avec le King pour le 40e anniversaire de sa mort.
France Inter.
C'est devenu une habitude, pas un matin sans une nouvelle polémique lancée par Donald Trump. Cette nuit en France, en fin d'après-midi aux États-Unis, lors d'une conférence de presse houleuse à la Trump Tower, le président des États-Unis a de nouveau renvoyé dos à dos les extrémistes de droite et leurs opposants de gauche. Après la mort d'une manifestante ce week-end à Charlottesville, en Virginie, qui protestait contre un rassemblement de suprémacistes blancs, lundi, Donald Trump déclarait « le racisme, c'est le mal ». Aujourd'hui, dans son discours, c'est beaucoup plus confus.
Wait a minute, I'm not finished. I'm not finished, fake news.
Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas terminé. Vous êtes de la fake news. Ces personnes n'étaient pas toutes des néo-nazis. Croyez-moi, toutes ces personnes n'étaient pas, loin de là, des suprémacistes blancs. Vous aviez un groupe d'un côté qui était agressif et vous aviez un groupe de l'autre côté qui était aussi très violent. Personne ne veut le dire, mais moi je le dis. Il y avait un groupe en face qui est venu attaquer l'autre groupe et ils étaient très, très violents.
En conséquence, l'ancien chef du Ku Klux Klan, David Duke, a immédiatement salué les propos de Donald Trump, tandis que les réactions indignées se multiplient dans le monde politique, sportif ou artistique. Mettre sur le même plan des néo-nazis et ceux qui protègent les droits civiques est honteux et insensé, a tweeté la chanteuse Barbara Streisand. Les patrons qui soutenaient le président américain l'abandonnent les uns après les autres. À New York, Marco Voltaire.
Lorsque le patron des supermarchés Walmart explique que le président a raté une véritable occasion de rassembler le pays, ce n'est pas rien. Walmart est l'un des plus grands employeurs des États-Unis, l'une des premières entreprises mondiales pour le businessman Trump. Un véritable coup de massue, d'autant qu'il vient ponctuer une série de défections lancées lundi par le PDG du groupe pharmaceutique Merck et suivies par le patron d'Intel, qui ont, avec d'autres, décidé de claquer la porte d'un groupe de réflexion initié avec fierté par Donald Trump pour relancer l'industrie. Ce groupe de travail comptait une trentaine de grands chefs d'entreprise avant que les uns et les autres ne prennent leur distance. Elon Musk, le très médiatique patron de Tesla, mais aussi le PDG de Disney, avait déjà jeté l'éponge après l'annonce de la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump, lui, a commenté les dernières défections par ce tweet. « Les patrons qui partent sont des beaux parleurs, j'en ai d'autres pour les remplacer ». À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
Et dernière défection en date, Richard Trumka, le président de la principale centrale syndicale du pays, vient d'annoncer sa démission du comité consultatif sur les questions industrielles. Nous ne pouvons nous asseoir au sein d'un conseil avec un président qui tolère le sectarisme et le terrorisme national. Conséquence du Brexit, le Royaume-Uni aimerait garder le principe de libre circulation des marchandises jusqu'à 2 ans après le Brexit, prévu donc en mars 2019, histoire d'assurer une transition en douceur vers de nouveaux accords douaniers. Le gouvernement britannique vient de publier le premier document d'une longue série détaillant ses positions dans la négociation de l'accord de retrait. Correspondance à Londres de Marina Daras.
Le gouvernement britannique avait déjà évoqué l'idée d'une période de transition post-Brexit
qui échelonnerait en douceur sa sortie de l'union douanière. C'est désormais un sujet très sérieux qui arrivera sur la table des dirigeants européens lors des prochaines négociations. Le document officiel propose deux approches possibles pour un éventuel accord douanier, mais toutes deux restent sensiblement similaires aux accords actuellement en place. Beaucoup d'experts ont déjà averti qu'il serait extrêmement difficile, voire impossible, de négocier un nouvel accord commercial entre le Royaume-Uni et l'UE d'ici mars 2019. En négociant une période de statu quo de 2 ans où le transit de marchandises à travers les frontières se ferait le plus librement possible, le Royaume-Uni espère minimiser l'impact commercial et économique qu'un Brexit dur pourrait avoir sur ses entreprises. Après une lourde période d'incertitude, Westminster temporise et espère désormais que le commerce de marchandises entre le Royaume-Uni et l'UE reste le plus libre possible. À Londres, Marina Daras pour France Inter.
En bref, au Nigeria, un attentat a fait 28 morts et plus de 80 blessés. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser hier à l'entrée d'un camp de déplacés près de la ville de Maïdougouri, dans le nord-est du pays, une région récemment ciblée par de nombreuses attaques du groupe djihadiste Boko Haram.
8h06, le journal Corinne Audouin. Corinne, bachelier, recherche, faculté, 3000 à 5000 diplômés n'ont pas d'affectation pour la rentrée.
Oui, elle s'appelle Diane, elle a 18 ans, elle vient d'avoir son bac L, avec mention assez bien. Elle fait partie des recalés d'admission post-bac, la plateforme qui attribue les places dans les universités. Diane veut aller en fac de droit. La plateforme APB lui avait attribué une place dans une université payante qu'elle a refusée. Elle a refusé en espérant une place dans une fac gratuite. Écoutez Diane au téléphone de Martin Delacoux.
J'ai eu une réponse limite un peu agressive en me disant que APB m'avait proposé un choix, que c'était moi qui l'avais refusé et que par conséquent je pouvais pas me plaindre en gros de la situation dans laquelle j'étais. Ce à quoi j'ai répondu que le principe des 3 phases d'admission, c'est quand même de pouvoir dire oui ou non à un choix qui nous a été proposé. Peu importe ce que nous, on veut vraiment. Ils ont mis en place une procédure complémentaire. Pour la petite anecdote, j'ai quand même une amie qui s'est inscrite sur cette procédure complémentaire. Elle voulait faire de la psycho. On lui a proposé une licence de serbe ou de suédois. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est une blague. Tout est une blague. Quand on appelle un numéro, on nous renvoie vers un autre numéro. En fait, c'est un cercle sans fin. On envoie des mails, on n'a pas de réponse. Et puis quand on envoie un mail, ils nous disent « bah non, faut passer par là ». C'est que ça. Que ça. Mais je pense qu'en fait, ils jouent sur l'usure parce que c'est vraiment décourageant. S'il n'y a pas les parents qui poussent derrière et s'il n'y a pas un minimum de volonté, il y en a beaucoup qui baisseraient les bras. Moi y compris.
À Bure, dans la Meuse, la manifestation des antinucléaires a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Entre 300 et 1000 personnes, selon les sources, s'étaient rassemblées hier après-midi pour protester contre le projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. Selon la préfecture, les échauffourées ont fait au moins 5 blessés, 2 gendarmes et 3 manifestants. Le collectif des opposants parle de 6 blessés, de 6 blessés graves et d'une trentaine de blessés légers dans ses rangs. Le conducteur qui a foncé dans une pizzeria lundi soir à Sept-Sorts en Seine-et-Marne sera présenté dans la journée à un juge d'instruction. L'homme âgé de 32 ans avait pris des stupéfiants. Selon le procureur adjoint de Meaux, il tient des propos incohérents et présente un délire de persécution. Le président de la République est-il un justiciable comme les autres? C'est la question qui se pose après la plainte déposée hier par Emmanuel Macron pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Plainte contre un photographe un peu trop collant au goût du chef de l'État. Si c'est la première fois qu'un président de la Ve République porte plainte pour harcèlement, les anciens locataires de l'Élysée se sont souvent montrés chatouilleux sur le respect de leur vie privée et de leur image. Laurence Perron.
Lex dura, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et la justice a donné raison plusieurs fois à des présidents pour des atteintes à leur droit à l'image. Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, contestant par exemple des détournements de leurs images à des fins commerciales. Paris Match a été condamné aussi en 1996 pour avoir publié des photos de François Mitterrand sur son lit de mort. Au rayon des photos de présidents volés encore, on ne parle là ni des Macron l'an dernier sur la plage, ou des bourrelets habilement photoshopés de Nicolas Sarkozy en maillot de bain. Au rayon transgression paparazzi, 2 clichés célèbres, Jacques Chirac tout nu au réveil au fort de Brégançon et François Hollande casqué sur son scooter se rendant chez Julie Gayet. Dans les 2 cas, il s'agit clairement d'une atteinte à la vie privée, mais il n'y a pas d'intrusion, les photos ayant été prises depuis l'extérieur. Les 2 présidents s'offrant en spectacle d'une certaine manière, on semble-t-il considérer que nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, il valait mieux en rester là.
Tout à fait autorisé, en revanche, les photos d'Emmanuel Macron vêtu du maillot de l'OM posté par plusieurs joueurs du club. Hier en fin d'après-midi, après une visite surprise du président au centre d'entraînement de l'OM, ça s'appelle un joli coup de com. Et puis comme tous les jours dans le journal de 8h, on s'intéresse aux finances des partis politiques. Aujourd'hui, le PS, l'essentiel des ressources des partis vient des dotations publiques, calculées en fonction des résultats aux législatives. Autant dire que pour le Parti Socialiste, avec 31 députés seulement, élu à l'Assemblée, c'est la crise, Élodie Forêt.
Heureusement que nous n'avions pas de dette, soupirait le trésorier du PS avant l'été. Une maigre consolation devant l'état des comptes, car dès 2018, le parti ne touchera plus que 7 millions d'euros par an, contre 25 millions depuis 2012. Une réduction drastique et des conséquences forcément lourdes. Première solution évoquée pour sortir de ce désastre financier, un plan social. On ne sait pas ce que l'on va devenir à la rentrée, s'alarme un salarié. Autre piste, vendre le prestigieux siège parisien estimé jusqu'à 40 millions d'euros. Ici, l'objectif est double, se renflouer mais aussi se débarrasser d'un symbole. Je ne veux plus qu'on surnomme le PS le parti de la rue Solferino, avait confié il y a quelques semaines Olivier Faure, président du groupe à l'Assemblée, qui comme d'autres cadres prône un retour à la modestie. La vente de Solferino, un acte historique, symbolique donc, qui ne se décidera pas sans l'accord des militants et du Conseil national prévu en octobre ou novembre.
Notre dossier sur les finances des partis politiques, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Le retour de la police de proximité, c'est pour la fin de l'année, promet le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans une interview à lire ce matin dans le Figaro. La création d'une police de la sécurité du quotidien, c'est son petit nom, c'était une promesse du candidat Macron. En attendant ces nouvelles recrues, les policiers tentent de sensibiliser l'opinion aux conditions, à leurs conditions de travail, matériel vétuste, locaux dégradés, saletés. Rien de plus parlant qu'une photo, c'est l'idée de l'Union des policiers nationaux indépendants, une association apolitique qui vient de lancer un concours de photos. Et malgré les vacances, les témoignages affluent. Pierre Coquelin.
En une semaine, l'association a recueilli une centaine de photos d'un peu partout en France dans le cadre de ce concours.
Tout est dans l'ironie, bien évidemment.
Nathalie a 30 ans, dont 9 sous l'uniforme de policière. Chaque jour, cette cadre de l'Union des policiers nationaux indépendants entend les témoignages de ses collègues.
J'ai évoqué dernièrement un véhicule qui avait un problème de clim. La porte en est tombée, donc les collègues se sont retrouvés avec un véhicule sans porte arrière-gauche.
Mais aussi des canalisations qui débordent, des insectes dans les vestiaires, des vitres rafistolées avec du scotch et du carton, ou encore des véhicules avec des centaines de milliers de kilomètres au compteur. Avec le temps, Franck n'est même plus étonné, 25 ans qu'il arpente l'Île-de-France avec son uniforme.
On veut des états généraux de la sécurité, on veut quand même que notre ministre de tutelle se rende bien compte du problème, des nombreux problèmes que nous rencontrons à tous les niveaux. On veut voir notre nouveau directeur général aussi, puisqu'il vient d'arriver.
Mais ce qu'il demande avant tout, c'est de la reconnaissance. Les policiers ont jusqu'au 10 septembre pour envoyer leurs photos à l'association. L'Union des policiers nationaux indépendants compte en faire un album qui doit être publié le 16 septembre lors de la manifestation nationale du mouvement. Pierre Coquelin, France Bleu à Paris pour France Inter.
C'est un des cauchemars des parents à la plage, perdre son enfant au milieu des parasols et serviettes de bain pour bronzer serein sur les plages du Nord et du Pas-de-Calais, si c'est possible. Les CRS distribuent des bracelets aux enfants. Comment ça marche? Bastien Dessenac de France Bleu Nord est allé en reportage sur la plage de Malo-les-Bains.
C'est devenu une routine pour les CRS qui surveillent la plage. Qui dit monde dit enfant perdu. Cette fois, c'est Noémie, 5 ans, qui a égaré ses parents. Heureusement, l'angoisse n'aura duré que quelques minutes.
Oh, là, regarde, ils ont retrouvé papa et maman. Est-ce que tu veux un petit biscuit en attendant?
La famille en sera quitte pour une grosse frayeur et repartira avec le petit bracelet proposé par les CRS. Philippine, elle, en a déjà un au poignet.
Il est écrit le numéro de téléphone de mes parents. Si on se perd, on va au poste de secours et puis ils font un appel.
Une première sur la plage de Malo, très appréciée par Anne-Emmanuelle, sa maman.
Comme j'ai 4 enfants, il faut toujours surveiller, donc ça permet d'être plus à l'aise, sachant qu'il y a plein de maîtres nageurs un peu à droite à gauche, c'est une bonne initiative.
Pour l'instant, la proposition est encore un peu confidentielle, mais le commissaire Thomas Jullet, des CRS du Nord, est satisfait.
On a distribué en tout 2332 bracelets sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Il espère que les plages de la région suivront celles du Sud-Ouest, où l'opération existe depuis 3 ans.
C'est de l'ordre de 20-25% en plus chaque année de distribution. Donc il y a une habitude qui est prise par les baigneurs et les vacanciers.
Et pour ceux qui n'ont pas pensé au bracelet, il reste la méthode habituelle.
Les parents du petit Nicolas, âgé de 7 ans, sont priés de venir le chercher au poste central. Merci.
Bastien de Seninck, France Bleu Nord pour France Inter.
8h14 sur France Inter, le journal Corinne Audouin. Corinne, il nous reste les 45 tours, les 33 tours pour ne pas oublier celui qui est parti le 16 août 1977. Il n'avait que 42 ans, Elvis Presley.
Et oui, c'était il y a 40 ans dans sa maison de Graceland. S'éteignait le king du rock'n'roll, Elvis Presley. La ferveur est toujours intacte. Ils sont près de 20 000 fans venus du monde entier pour commémorer l'événement. Notre correspondant aux États-Unis, Philippe Rondé, s'est glissé parmi eux.
Comme si Elvis pouvait les entendre pendant de longues heures, bougie contre bougie, visage transpirant et mains moites, des milliers de fans ont chanté devant le mur de Graceland. Serré contre son voisin, Jane, 55 ans, a à peine la force de fredonner.
What do I feel? I'm just very emotional.
Qu'est-ce que je ressens? Je suis très ému et touché. Je voulais venir ici depuis des années. J'ai grandi avec Elvis. Il nous a amené le rock'n'roll. Et là, c'est comme s'il était là. Pendant quelques temps, tous ensemble, on peut oublier toutes les mauvaises choses qui sont en train de se passer dans notre pays. Quelques minutes plus tard, chacun monte en silence avec sa bougie vers la tombe du King à côté de la maison. Richie, coiffé comme Elvis, vient de Cannes pour vivre ce moment unique.
Moi, je suis tombé dans la gamelle tout petit, à l'âge de 13-14 ans. Et puis depuis, j'ai 58 ans, je le vis au quotidien tous les jours. C'est une façon de vivre. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un déguisement comme beaucoup pensent que les gars, ils se coiffent pour faire beau. Non, non, non. C'est dans le cœur. Ça devient au trip comme une passion. Comme s'il faisait partie de membres de notre famille. Quoi. Ça a été quelqu'un qui m'a poursuivi toute ma vie, on va dire, en tant que grand frère. Quoi.
Et comme un symbole, c'est Lisa Marie, la fille d'Elvis Presley, qui est venue devant la foule allumer la première bougie. Memphis, Philippe Rendez, France Inter.
Et on va pas vous le cacher, Pierre Veil, vous avez eu vous aussi votre petite larme à l'œil en entendant Falling in Love.
Évidemment, moi j'ai découvert Elvis Presley dans les années 60 en écoutant d'abord Love Me Tender. Ensuite, c'était magnifique. Adapté en français par Johnny Hallyday, Amour d'été. Puis après, j'ai réussi à remonter toute la carrière. Et là, j'ai découvert les grands classiques du rock, Jailhouse Rock, etc.
Alors, faut pas lancer Pierre Veil sur le rock,
parce
qu'on l'avait pour deux heures.
On a plein de rendez-vous. Voilà, il est 8h16 et on va retrouver, que je m'y retrouve. Oui, Caroline Osterman pour la météo. Le soleil est de retour.
Voilà,
Caroline.
On a une belle journée d'été qui est prévue avant l'arrivée d'une nouvelle dépression demain. Il reste encore des traces de gris dans le sud-ouest. Le ciel est instable du sud-aquitain jusqu'au Limousin. Une averse orageuse est possible sur les Pyrénées. Sur les Alpes, le risque orageux sera beaucoup plus faible que dans le massif central au bord de la Méditerranée après la dissipation du voile nuageux, ciel bleu et soleil radieux, comme sur la plupart des régions.
Caroline, pour cette journée d'été, les températures sont de saison?
Oui, on est dans les moyennes. Ça baisse un peu dans l'Est, 27 à Strasbourg contre 31 hier. Ça remonte dans le sud-ouest, 27 à Bordeaux, 30 à Agen. Les températures seront comprises entre 20 et 24 près des côtes de la Manche et en Bretagne. À Paris et Vierzon, on attend 26 degrés, 27 à Clermont-Ferrand, 29 à Montpellier, 31 à Lyon. Et dans le sud-est, les températures seront chaudes jusqu'à 36 localement à Brignoles dans le Var.